Quelle excellente journée pour un exorcisme.
Je vois des gens qui sont morts.
Comment vous avez réussi à vous maintenir en vie pendant si longtemps?
Et la partie commence.
Tu as peur des singes?
Oui, mais en fait, les tout petits singes, c'est ceux qui peuvent se faufiler partout.
Ouais.
Ouais.
Par exemple, si tu laisses la fenêtre ouverte, il y a un singe qui peut rentrer.
On est partis en vacances ensemble et dans une chambre d'auberge de jeunesse, ça nous a fait un gros trip parce qu'il y avait des barreaux, mais les singes pouvaient quand même passer à travers les barreaux.
Et il aurait pris la clé, il aurait ouvert à quelqu'un. Parce que les singes ont des complices en principe.
Mais qu'est-ce qui te. Pourquoi
je sais
alors,
pas.
Tu sais pas?
Mais en fait, il y a un peu trop d'imagination dans ma tête, je pense. Je sais pas, j'imagine après ce qui va se passer.
D'accord.
Parce que c'est pareil, les patates germées. Bon, en soi, c'est vrai que c'est un peu dégueu, mais de là en avoir
peur. De là en avoir peur, c'est quand même compliqué.
Non, imagine, elle passe par la fenêtre, elle ouvre la porte à leur complice.
Il y a les artistes et il y a les artisans. En football, il y a Neymar et il y a Matuidi. Dans le passé, il y a eu Zidane, il y a eu Makelele. On admire les premiers pour leur génie et on a tendance à leur passer tous leurs caprices. Des seconds, on attend toujours qu'ils soient excellents et qu'ils acceptent de rester dans l'ombre. Bien sûr, la star est plus exposée. Dès qu'elle commence à montrer des signes de faiblesse, on lui cherche des successeurs. Le joueur besogneux, lui, tombera de moins haut quand il devra progressivement accepter de quitter la scène. Mais le plus important, est-ce qu'on aime moins les artisans que les artistes? Ben, j'en suis pas si sûr.
Tu montais sur scène avec cette blonde typique un peu conne, ce personnage qui jouait la conne, mais après il y avait un côté magicienne.
Ouais, oh là là.
T'es d'accord? Il y avait, parce que déjà, je me souviens que j'ai dit, ah tiens, elle va faire de la magie aussi, mais de fausse magie, c'est-à-dire de tours qui marchaient pas.
Ouais, ouais, c'est ça.
Et donc, mais ça a déjà donné une autre dimension à ce personnage.
Ouais, c'était pas une blonde un peu conne, en fait, c'était de l'absurde.
D'accord.
Sauf que j'ai remarqué ça plusieurs fois, quand des filles font de l'absurde, on dit qu'elles font les connes, mais quand c'est des mecs, on comprend tout de suite.
En tout cas, ces gens-là sont capables de faire les pires horreurs avec une cigarette électronique qui fait beaucoup de fumée. Cette chose, alors je ne sais pas comment appeler ça, comment décrire ça.
C'est un tronc.
Ça.
C'est un tronc.
Un tronc de femme avec deux trous.
Un sextron.
Ouais. Et
c'est dommage qu'ils n'aient pas fait un trou à la place du cou quand même.
Et un bébé en plastique particulièrement
une fonction
sale.
Utile. C'est sale, oui, effectivement. Non, on peut le dire, c'est très très sale. Quoi. Le niveau de consternation est au maximum, me dit-on, sur le chat.
Je ne me marierai pas, et il est probable que je ne prendrai jamais d'amant, parce que, dans les conditions actuelles, les relations sexuelles sont une source de diminution pour la femme qui est mariée et de mépris pour celle qui ne l'est pas. Ma virginité n'est pas une cause de souffrance, et je suis convaincue d'avoir ainsi choisi dans la vie la voie qui me convient le mieux. Mais une telle manière, vous le comprenez, ne peut être prêchée comme définitive. Elle n'est que la conséquence de la situation injuste qui est faite à la femme.
En tant que femme, je me dis s'il y a une possibilité d'une autre masculinité qui ne soit pas nécessairement oppressive envers les femmes, parce que ce serait une masculinité qui serait connectée avec les sentiments, les émotions et l'acceptance en fait, de ce qu'on est. En fait, je suis hyper enthousiaste et je me dis si on arrive, peut-être notre génération, peut-être les générations d'après, à construire d'autres modèles de masculinité noire, ça pourrait être vraiment cool, quoi.
Je me suis aperçu que sur la planche représentant le bassin de l'homme, les petites flèches en renvoyé, n'est-ce pas, à des détails anatomiques absolument précis pour les organes génitaux, n'est-ce pas, et stupeur, enfin c'est pas croyable, dans un dictionnaire encyclopédique en 10 volumes, qui est un des plus énormes, n'est-ce pas, de l'époque actuelle, pour le bassin de la femme, je reproche à la maison Larousse, n'est-ce pas, dans son grand dictionnaire encyclopédique, n'est-ce pas, de ne pas avoir mis de petites flèches, n'est-ce pas, pour indiquer que les femmes avaient des lèvres et un clitoris, car ça ne figure pas. Cette excision typographique est absolument monstrueuse.
Il y avait eu cette polémique autour du livre de Michel Simès qui représentait très bien le sexe du petit garçon. On voyait bien tous les détails, il n'y avait pas de problème, tout était nommé. Ça aussi c'est important, hein, parce que ce qu'on ne nomme pas n'existe pas. Donc là tout était bien nommé. En revanche, sur la représentation de la petite fille, on voyait une zézette avec juste une fente et l'appareil urinaire. Et donc finalement tout avait absolument disparu. Et c'est quand même extrêmement intéressant. Ça en dit long. Enfin, comment est-ce qu'on peut grandir quand on est une petite fille dans une totale méconnaissance comme ça de notre appareil génital?
Quelque part, tu montres que le féminisme n'est pas défini par le fait de détruire le mec.
Bah, c'est la vraie définition du féminisme. C'est pour ça qu'il y a encore un vrai problème avec les personnes qui se disent féministes et qui, 5 minutes après, vont dire que tous les mecs sont des connards. J'en peux plus, en fait, d'entendre ça. C'est vraiment... Et justement, c'est dans les prochains sujets que j'aimerais aborder dans mon spectacle. C'est que on parle beaucoup des hommes qui, avec le patriarcat, donc c'est un peu les hommes qui ont une pression sur nous, mais les femmes ont une pression énorme. Quand on se fait juger sur notre tenue, c'est toujours par des femmes, c'est jamais par des hommes.
Effectivement, quand en ouvrant une bouteille et qu'on sent qu'on a cette impression un peu, comme le disait si élégamment Patrice, d'œuf pourri ou de chou.
C'est ça. De chou.
C'est à la fois consternant parce que on n'aime pas ça, mais en même temps, c'est pas inquiétant parce qu'on sait.
Juste
que...
patienter.
Une assistante sociale qui part à la retraite après 30 ans de carrière, elle a un savoir politique phénoménal, mais elle ne le reconnaît pas comme savoir politique. Jamais elle va dire je vais écrire un livre, tu vois, elle n'est pas légitime puisqu'il faut être du CNRS pour écrire sur les politiques sociales. Or cette femme qui a 30 ans de mise en œuvre, tu vois, de politique sociale sur un département, elle sait plein de choses. Si tu l'invites chez toi, si c'est ta belle-sœur, Elle est passionnante, elle va te raconter plein d'anecdotes de femmes qu'elle a rencontrées, qui étaient dans... Enfin, tu vois, je veux dire... Et donc, ce savoir-là, il n'est pas partagé. C'est ça, l'éducation populaire, c'est de mettre ce savoir-là en partage. Et c'est de décider qu'on a un savoir.
Est-ce que tu as entendu le sample ?
Non.
Parce que pour une fois, enfin pas pour une fois, pardon, sur celui-ci, ils sont beaucoup moins feignants en fait. Ils ont pris une partie du morceau, ils ont découpé des petits morceaux du truc pour en faire une mélodie. Si je te fais écouter juste une note.
Oui, one more time.
Et la deuxième. Et si j'assemble le tout. Voilà.
Excusez-moi, c'est vous qui avez réalisé cette boucle ?
Oui.
Artisan effets spéciaux.
Exactement. Donc voilà.
Rémi Julien.
De légumes.
Pardon pour cette blague.
Il reste 5 minutes et pour l'instant, tranquille, Monaco mène 2-0 ici à Bordeaux.
Et peut-être y a-t-il beaucoup de Parisiens dans le stade de Bordeaux, même oui, si j'ai lu cette semaine que les Parisiens ne sont pas forcément bienvenus à Bordeaux, Denis Grosjeu.
Attention, au départ, c'était juste un débat sémantique sur est-ce qu'il faut dire chocolatine ou pain au chocolat, puis ça s'est transformé en Parisien reste chez toi, etc. c'est chaud quand même.
Ça devient une société, mais une société de pourris, une société pour les riches. Macron ne voit que par le fric.
Mais donner la parole aux gens ne suffit pas. Que ce soit en politique ou dans les médias, le simple fait d'ouvrir le micro, en fait, on récupère tous ceux qui n'ont pas le temps, qui ont quelque chose à dire, qui sont un peu habitués à parler. Dans les villes, dans les assemblées générales, quand on fait parler les gens, c'est toujours les petits vieux qui viennent râler. Et puis sur Internet, alors c'est pas toujours les petits vieux, mais il y a souvent beaucoup de dépressifs, ou les trolls, tels qu'on les appelle, ou ceux qui sont assez organisés pour structurer une parole. Mais finalement, c'est pas forcément toujours le plus intéressant. Et la vraie parole, les vraies idées, parfois, il faut l'aider à la formuler.
Tout le film fonctionne sur ce principe que ce que les personnages voient ou croient voir, c'est en fait ce qu'eux-mêmes ils ont amené. Il y a une réplique dans le film où Marie-Elisabeth Mastrantonio essaie de reprendre son mari, de le réveiller par rapport à la peur qu'il commence à avoir de ces créatures qui les envahissent. Et elle lui dit Coffé ne voit que ce qu'il a amené avec lui. Il voit ses propres démons. Tu dois essayer de voir avec de meilleurs yeux que lui. Et ça, c'est un thème qui obsède un peu James Cameron. Voir le monde avec de meilleurs yeux. Le monde n'est pas mauvais. C'est notre regard qui amène le mal. Et ça, c'est vraiment au cœur de la thématique d'Abyss.
Chez Stephen King, c'est pas du fantastique à la Todorov tel qu'on l'entend en fait en Europe. C'est-à-dire, le fantastique, c'est la question. C'est la question à laquelle tu ne peux pas répondre. C'est est-ce que ça s'est vraiment produit ou pas? Est-ce qu'il y a vraiment un fantôme ou pas? Non, chez Stephen King, il y a un fantôme. On le sait. Et en plus, il y a un fantôme. Il est dégoulinant de sang et de machin, etc.
Il dit son nom dès le début du bouquin.
Et faire ça au cinéma, c'est très compliqué. Ouvrir la porte. On peut le voir des fois le monstre et c'est super réussi, mais ça reste quand même très compliqué. Il faut avoir beaucoup de talent et surtout, il faut avoir une conjonction de talent qui est pas toujours facile à trouver. Alors il y a des gens qui éludent ça totalement et c'est le cas par exemple de Kubrick dans Shining. C'est-à-dire que tu compares la fin du roman Shining qui est ultra grandiloquent avec des monstres géants et puis
les buissons qui bougent
mais ça devient des monstres géants et la fin du Kubrick qui reste très cérébrale psychologique et tout, c'est deux œuvres complètement différentes. Et Darabont, je trouve, y compris dans The Mist, qui est, en ce qui me concerne, je crois que c'est mon film préféré de Darabont, et une des meilleures adaptations de King. Il y a un truc entre ces deux esprits-là, entre ces deux artistes-là, qui fait clic, qui fonctionne. Et Darabont, il montre...
Un Americana, un peu, j'ai l'impression.
Américain noble, érudit, quand même, et qui reste très proche du peuple aussi. Et c'est finalement, ce sont des qualités qui sont difficilement conciliables.
Sur le tournage d'un de ses films, justement, qui est censé se passer au Moyen-Âge, je ne sais plus quelle époque, et il tourne la séquence avec ses acteurs, et dans le cadre, après avoir tourné la scène, il regarde un peu le moniteur, et il voit qu'il y a une espèce de ventilo qui est dans le cadre, et il va voir son chef, et il dit, mais tant, t'avais pas vu ce truc-là, quoi. Puis il dit, mais si, mais on va enlever ça en post-production, et Landis demande juste à son actrice de se décaler, elle cache le ventilo, et voilà, j'ai économisé $45,000. Et il y a une espèce d'habitude qui s'est formée dans le cinéma, et comme tu le dis, c'est pas uniquement dans le cinéma de science-fiction ou d'effets spéciaux, dans n'importe quel film, aujourd'hui on va se dire non mais c'est pas grave, on va régler ça en post-production, le numérique va tout arranger, ça va être des trucs comme ça, mais ça va être la lumière, ça va être un décor dans le fond qu'on va aussi modifier, n'importe quoi. Et il se pose aussi la question, Joe Dante et John Landis, de dire, et un truc dont on a déjà parlé aussi, je pense, dans cette émission, de dire, aujourd'hui, tout est possible. On peut absolument tout faire dans le cinéma. Ça se voit avec les superproductions américaines, évidemment, où on a pu tout détruire. Eux, ils prennent un exemple 2012 de Roland Emmerich, par exemple, où ils trouvent ça très drôle parce qu'ils trouvent ça grotesque. Hein, mais voilà, il a détruit la planète. On voit la planète se détruire depuis la Lune. Donc, même en termes de point de vue, on peut faire absolument ce qu'on veut. Très bien. Sauf que maintenant, qu'est-ce que tu fais avec ce pouvoir-là, justement? C'est le problème qui se pose, c'est qu'il faut retrouver justement des créateurs qui vont insuffler leur propre vision des choses, en fait, parce que sinon tu peux tout faire, c'est bien, mais qu'est-ce que t'en fais?
J'ai déjà vu une entrevue de David Lynch vraiment intéressante à ce niveau-là où je pense que c'est Charlie Rose qui lui demande la question, est-ce que t'as déjà considéré suivre une thérapie? Et puis là, Lynch dit une fois, je suis allé une fois. Charlie Rose, il lui dit, mais okay, comment ça s'est passé? D'entrée de jeu, j'ai dit au psychologue, là, avant qu'on commence, il faut que tu m'assures qu'il n'y aura pas de risque à ma créativité, ce qu'on fait ici. Et là, le psychologue s'est tué, il a attendu un peu, il a dit, David, je suis désolé, je peux pas t'assurer ça. David s'est levé, il est parti.
Bon, là, le vin s'est un peu ouvert. C'est vrai qu'au nez, il était un peu difficile, un peu compliqué au début. En bouche, par contre, il a quand même quelque chose de vraiment intéressant.
J'avais une telle envie de poser le bagage que j'en ai parlé à un de mes gendres. Mais il a fallu 24 heures de crapahut dans la montagne pour qu'à maman, je lui dise... Faut que je te dise un truc. Ah bon, si tu veux me dire. Ben voilà, paf, j'ai lâché le morceau. Et il se trouve que dans un atelier de clown, où nous travaillions en improvisation sur la mort et la violence, mon gendre m'a dit, il m'a dit, ben là, faut que tu dises quelque chose. Et là, j'ai, pour la première fois, je leur ai dit, ben voilà, j'ai tué un homme. Jusqu'au moment où, un peu malgré moi, malgré ma famille, c'est quand même venu en public. Et chaque représentation est pour moi une occasion de parfaire la résilience.
Et le corps change, vous êtes fatigué, non, vous êtes en forme. Dès que vous entrez en scène, souvent le nez s'arrête de couler, par exemple, j'ai souvent constaté ça. Un chat, une gorge douloureuse, eh bien, on est dans la pièce, elle le fait plus mal. J'ai même vu un acteur, je me rappelle, qui était très malade du sida, il allait mourir 15 jours après. Avant la scène, il avait un masque à oxygène, il le mettait, il restait 15 minutes en scène. Il posait son masque, il jouait sa scène pendant 15 minutes, et il ressortait, il remettait le masque. Mais les 15 minutes de scène, il n'était pas véritablement malade.
C'est l'humain le truc le plus important, même s'il est désespérant. La chose la plus intéressante et la plus enrichissante, pardon, c'est l'humain. Même s'il est désespérant, c'est l'humain. Et souvent l'humain proche, hein, qui est un ami ou un frère, il peut vous décevoir à mort, mais tout se bâtit et tout tourne autour de lui, l'humain. Quel que soit son sexe, quelle que soit son orientation sexuelle, quelle que soit sa nationalité, sa religion. Quand on est scénariste, on peut pas être raciste, on peut pas être antisémite, on peut pas être méprisant. On doit respecter tous les personnages, excepté ces fils de pute de pédophiles.
On a une idée des Romains comme une population qui se laissait aller à des, disons, une espèce de folie sexuelle à la fin des banquets. C'est absolument faux. Ils étaient très raffinés, par exemple. On prenait du parfum, on buvait du parfum pour donner des baisers parfumés. C'était très, très raffiné. Et quand on voit des fresques, par exemple, dans les lupanars, là, bon, c'était le fameux lupanar qu'on voit à Pompéi, c'était un lupanar pour esclaves, et même pour marins, la haute société, les prostituées venaient chez toi. Tu n'allais pas dans les lupanars.
On vous épargne une description de lupanar.
Non, mais je peux seulement ajouter une chose. Ils connaissaient déjà le Viagra. Ils connaissaient la pilule du jour avant, du jour après. Ils avaient les sex toys, ils avaient tout déjà.
Oui, mais il ne faut pas imaginer que la sexualité néanmoins ressemblait à la nôtre, parce qu'il y avait des partages entre dominants et dominés qui n'étaient pas ceux qu'on connaît aujourd'hui.
Pour revenir à Ciné Tamaris, pourquoi ça a été important pour vous dès le départ, puisque c'est...
On se connaît.
Oh oui, mais pour la radio,
la radio.
Je veux bien tutoyer, chère Agnès, mais ça exclut l'auditeur, paraît-il. D'être.
On se connaît depuis longtemps.
On va tous se tutoyer.
Donc on se dit tu. C'est un peu
on
normal.
On s'accorde, ça fait au moins 20 ans.
Tant que moi, depuis 68, j'ai un peu tendance à dire tu à tout le monde.
Alors on se dit tu, Agnès.
Igor, qui a un pote avec qui je faisais du kendo à l'époque,
ouais.
À Bordeaux, ça remonte, hein, ouais. Ça date facile 10 ans, quoi, voire un peu plus,
ouais.
Et qui m'a contacté par texto, je crois,
ouais.
Ouais, par texto, parce qu'on a, on avait échangé nos numéros à l'époque, c'était le numéro de mon frère, maintenant c'était un peu compliqué, ouais. Mais en gros, je reçois un texto de nulle part un jour. Ouais. Qui dit hey, salut Kevin, c'est Igor. Dis, ce serait pas toi qui fais le Cozy Corner? parce que tu parles de Bordeaux, tu t'appelles Kevin, et je reconnais un peu la voix. Et puis j'avais parlé de kendo, je crois, dans un épisode.
Ah ouais, bah,
et donc
putain,
j'ai dit
imagine.
Là, bon, ça fait quand même beaucoup de beaucoup de coïncidences. Et donc ouais, effectivement. Et on s'est revus depuis, on a bouffé ensemble et tout.
D'accord.
C'était super cool.
Ah, c'est rigolo ça.
Bien sûr, je le disais, on prétend pas résumer toute la région à seulement 80, et on pourrait probablement faire toute la saison entre Avignon et Montélimar. Mais que voulez-vous, c'est le défi que nous nous sommes fixés à la Terre à Boire, celui de nous promener un peu partout et de trouver dans chaque région quelques vins connus ou moins connus, si possible moins connus. On aime bien vous faire découvrir des choses qui vous donneront peut-être envie de les découvrir.